Bonjour.
Et bienvenue. Vous revenez de voyage ?
Oui, je reviens de voyage. Oui.
Écrivain et voyageur, vous êtes de passage à Paris, en tout cas à l'occasion de la parution de ce magnifique roman « Ritournelle de la fin » qui paraît chez Gallimard. Une histoire écrite, pour reprendre vos propres mots, en mémoire d'une jeune fille qui fut malgré elle une héroïne à 20 ans. Qui est-elle ?
Le produit de mon imagination, parce que je ne parle de personne de réel, de vrai. Mais j'ai pris comme modèle tout de même, la personne qui m'a inspiré, c'est ma mère, bien qu'elle était beaucoup plus âgée que le personnage de mon livre. Et donc j'ai un peu écrit ce roman en hommage à ma mère. Mais est-elle le personnage du roman, n'est pas du tout ma mère.
Qui fut malgré elle une héroïne à 20 ans. Pour comprendre, pour ceux qui vont découvrir le livre, un mot pour ouvrir une petite fenêtre sur cette histoire.
Oui, malgré elle, parce que ça se passe dans les années qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale. Et je me souviens que ma mère me disait toujours que dans ces années-là, les années 30, on sentait la guerre arriver. Un peu comme maintenant on parle de la crise, on parlait de la guerre. Et on sentait que ça venait. Et un peu comme la crise, on ne savait pas ce qu'il fallait faire pour l'arrêter. Et on avait le sentiment que c'était inévitable. Et c'est cet état d'esprit, cette sorte d'angoisse, d'inquiétude qui m'a intéressé. C'est ce que j'ai eu envie de traduire dans ce livre.
Retour sur une période révolue, une période fermée.
Oui, fermé, un peu comme celle d'aujourd'hui aussi, parce qu'on butait sur des idées totalement fausses et totalement anachroniques. On croyait dans la force, on croyait que la force pouvait primer sur ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, c'est-à-dire la raison. On admirait les gens forts, Mussolini, Hitler, tous ces gens qu'on prenait comme modèles. Et donc, on s'enferrait dans cette sorte de mécanique de la guerre. C'était impossible d'y résister. Et je dis comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on s'enferre dans des idées qui sont complètement fausses et archaïques. La peur de l'autre, l'enfermement dans une Europe des riches, et les yeux fermés sur le monde, la réalité du monde. Et quand cette réalité nous rejoint, comme c'est le cas aujourd'hui, on est tout étonné. On est étonné que les matières premières risquent de manquer, que l'argent va faire défaut, que le capitalisme est devenu incohérent et pratiquement dans un état de folie. Donc, c'est très semblable. On vit une époque qui est très semblable.
Difficulté à comprendre l'époque. Vous avez la liberté du romancier. Que peut le roman, que ne permet pas le journalisme, qui est interdit au discours politique, au discours des experts, qui ont l'impression, qui donnent le sentiment en tout cas d'être dans la confusion, dans la perte de repères, dans l'incapacité à fournir de bonnes grilles de lecture pour analyser le monde dans lequel on vit ?
Le roman est un mode déraisonnable par excellence, parce qu'il est fondé sur les nerfs. C'est un exercice des nerfs, ce n'est pas un exercice de l'esprit. Et c'est la réaction d'un individu qui a quelquefois des raisons d'avoir cette réaction. C'est une réaction d'un individu face à des situations ou à des problèmes de société ou à des événements qu'il serait difficile d'analyser autrement que de manière pathétique, de manière nerveuse, justement.
On est à Paris. Paris Sud-Ouest, c'est pas très loin d'ici, pas très loin de la maison de la radio. On est entre Montparnasse et le 15e arrondissement. Un Paris qui paraît très lointain, un Paris qui paraît passé. Et on a l'impression d'être assez loin de votre géographie. Vous voyagez beaucoup, vos romans ils viennent de tas d'endroits différents, de Maurice, d'Afrique, d'Inde, du Brésil. Pourquoi vous êtes arrêté dans cet espace-là ?
Moi, je ne suis pas un vrai voyageur, c'est-à-dire que je suis plutôt un nomade, c'est-à-dire quelqu'un qui va d'un endroit à l'autre, mais qui n'a pas vraiment de racines. Et mes racines familiales sont mauriciennes, puisque toute ma famille est mauricienne, mais elles sont aussi parisiennes, parce que du côté de ma grand-mère, on était parisiens. Et on était parisiens du 14e, 15e arrondissement, surtout que les Mauriciens aimaient beaucoup ces arrondissements-là, donc ils s'y installaient. Et j'ai l'impression d'avoir cette double appartenance, plus une lointaine appartenance au monde breton, et par mariage, des affinités avec le monde du Maghreb. Donc voilà, mais entre ces divers points, je ne peux pas dire lequel je vais choisir, et je suis obligé d'aller de l'un à l'autre.
C'est dommage qu'il n'y ait pas de fenêtre dans le studio, parce que de la fenêtre de la maison de la radio, du bureau où travaille l'équipe des matins, on voit tous les jours une petite partie du décor de votre roman. Il s'agit d'une petite île, très étrange, très longue et très fine au milieu de la Seine. C'est l'île aux cygnes.
Oui, ça s'appelle actuellement l'allée des cygnes. Mais en réalité, avant, à la fin du 19e siècle, c'était une île, une véritable île. Enfin, aujourd'hui, c'est une île. Mais la partie sur laquelle on a construit la tour Eiffel était une île. Et c'est ce que moi j'appelle le cœur de Paris. On m'a dit non, c'est pas le cœur, c'est excentrique. Comme peut-être la maison de la radio est excentrique dans la géographie de Paris. Mais pour moi, c'était vraiment le cœur. Et je pense que d'ailleurs, Général de Gaulle avait conçu la maison de la radio pour être au cœur de la cité. Et oui, c'est un endroit extrêmement émouvant parce qu'on a l'impression que rien n'a bougé. Il y a ces vieux peupliers, ces arbres qui sont penchés sur la Seine, qui ont l'air d'être là depuis très très longtemps, peut-être même avant que cette région soit vraiment construite. Et de ce lieu, on peut voir un vide. Et ce vide, ça s'appelle aujourd'hui la plateforme, ainsi que les gens l'appellent. La plateforme, c'est l'emplacement où se trouvait le Veldiv. Et on ne se souvient plus de ça. On regarde ça aujourd'hui, on voit des silhouettes d'immeubles, d'ailleurs en fort mauvais état. Et on ne sait pas que là, dans le cœur de Paris, s'est passé quelque chose d'extrêmement violent et peut-être le point central de la participation de la France à la Deuxième Guerre mondiale.
Effacé, comme effacé physiquement. Et pourtant, il en reste quelque chose dans les mémoires.
Oui, on a beaucoup écrit, on a beaucoup de témoignages. Il y a même des plaques, et il y a aussi une synagogue actuellement et un musée. Mais quand vous parlez aux gens du Veldiv, la plupart des gens ne savent pas où c'était. Ils ignorent que ça se trouvait à cet endroit-là.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'investir, alors non seulement cette période-là, mais ce lieu-là ?
Bien, précisément parce qu'il y a une partie de ma famille qui est originaire de Paris. Et cette partie de cette famille, je dois dire que c'était une famille assez étrange, assez étonnante, parce qu'elle était une famille très cultivée, avec des idées très avancées dans tout ce qui touchait le domaine de l'art. Et en politique, c'était des gens très réactionnaires. On dirait ça aujourd'hui, réactionnaires à quoi ? Je ne sais pas, mais enfin, ils étaient réactionnaires. Et ces gens qui étaient souvent royalistes, qui étaient très proches de la Ligue, et qui, au fond, ont eu une certaine complaisance vis-à-vis de cette montée de la violence qui s'annonçait dans les années 30. Et moi, ces gens, je les ai connus. C'était mes oncles, mes tantes, des amis de la famille qui se réunissaient chez mon grand-père et qui, après la guerre, quand j'avais 5, 6, 7 ans, continuaient à exprimer des idées tout à fait étonnantes, même pour un enfant, des idées dans lesquelles on continuait à construire un monde qui ne pouvait pas exister. On continuait à vivre sur cette illusion que la société occidentale était supérieure à toutes les autres, que au sein de cette société occidentale, la société française devait donner l'exemple, qu'il y avait un danger terrible qui menaçait le monde. Et ce danger était double. C'était le noir et le rouge, les anarchistes et les communistes. Et on attendait le grand soir et tous ces gens en parlaient, alors qu'on venait de passer les années les pires qu'avait connues la France. Ces gens continuaient à parler de ça. Et moi, je me souviens très bien de ces discussions. Je me souviens vraiment de... un enfant capte ces mots, il ne les comprend pas, mais il reste en lui. Et quelques années plus tard, il s'ouvre et tout à coup, on voit ce qu'ils contiennent. Et on est saisi par le venin qu'ils contenaient.
Et vous les racontez à travers les yeux d'une jeune fille. D'abord d'une petite fille, et puis elle grandit. Ses amitiés adolescentes, son regard, là aussi, elle ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Elle entend des mots, et d'ailleurs souvent ça intervient dans le roman comme par collage. La politique, les rumeurs du monde, les mots de la haine, ils apparaissent comme si vous les colliez dans le texte.
Oui, parce que elle a 10 ans en 1930, elle a 20 ans en 1940, et c'est entre ces deux dates que se développe vraiment toute cette sorte d'animosité et de montée de la violence. Et je voulais qu'elle en soit témoin véritablement comme on peut l'être entre l'âge de 10 ans et 20 ans. Non pas comme l'avait été ma mère qui était beaucoup plus âgée, ni comme moi qui ai vécu ça, on peut dire, les yeux fermés sans comprendre réellement de quoi il s'agissait.
Les yeux fermés, mais la faim au ventre.
Oui, parce que en fait, j'avais envie d'écrire ça. On parle beaucoup de la faim. Et moi, j'ai connu cette sensation parce que après la guerre, j'étais sur les routes avec beaucoup d'enfants à attendre l'arrivée des Américains qui jetaient du pain aux gosses qui attendaient au bord de la route. Et j'ai fait comme ces gosses, j'ai attendu et les Américains ont jeté un pâté de pain. C'est tombé à mes pieds, ma grand-mère l'a ramassé, me l'a mis dans les mains et on a dû faire des signes aux Américains qui passaient. Je pense que peut-être quelques mois avant, on avait dû recevoir des tablettes de chocolat des Allemands et faire à peu près la même chose. Et je me souviens d'avoir goûté ce pain et d'avoir été absolument émerveillé par le goût, parce que je ne connaissais pas le pain, je n'avais jamais mangé de pain. C'était la première fois, j'avais 5 ans, 6 ans, je mangeais du pain pour la première fois. Et ça m'est resté toute la vie, cette impression de ce qui m'avait manqué, de ce que je n'avais pas eu. Et quand on me parle de gens qui n'ont rien dans le monde, je pense à ça, je me revois sur le route, je suis comme peut-être sont aujourd'hui les enfants afghans ou irakiens qui sont au bord de la route et qui attendent que les Américains leur jettent des pâtés de pain.
Et ça, Jean-Marie Le Clézio, c'est quelque chose de très fort. Ce sont les premières pages du livre, justement. Ceux qui ouvrent cette ritournelle de la fin, ces moments où vous revenez sur cette enfance et vous arrêtez très tôt. Vous arrêtez au bout de quelques pages, 3-4 pages, pour commencer une toute autre histoire, justement, celle de cette jeune fille, d'Ethel. Pourquoi vous êtes interrompu là ?
Parce que je ne voulais pas écrire un roman dont je serais le personnage central. Je tenais à dire ce qu'était la fin, parce que c'est ce qui m'a motivé pour écrire ce livre. Je pense que c'était une fin qu'on pouvait sentir à cette époque, c'est-à-dire juste avant la guerre, pendant la guerre et après, une fin réelle, une fin physique. Mais il y avait aussi une autre fin, qui était une fin de liberté, d'air pur, ouvrir la fenêtre, sortir de l'enfermement, et une fin aussi de vérité. Donc, pour moi, c'était une sorte de préliminaire pour écrire ce livre.
Un sentiment extraordinairement physique, la fin, quelque chose de très élaboré, d'artistique, la musique, et notamment un morceau de musique qui est un peu comme la bande originale du livre. La bande originale, ce serait le boléro.
Oui, le boléro, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les dernières percussions du boléro, c'est un rythme à quatre temps, c'est les pam 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 pam, et ça a été repris pendant la guerre par la BBC qui en avait fait son ouverture vers la liberté. Et j'ai imaginé, peut-être que c'est tout à fait faux, je n'en sais rien, que Ravel avait pressenti la guerre lui aussi, qu'il sentait la montée de la violence et que ce ballet de Ida Rubinstein était une sorte de préfiguration de ce qui allait se passer. Il y a quelque chose de prophétique.
Juste avant l'explosion.
Oui, parce que là aussi, c'est un de mes souvenirs d'enfant. J'étais à Nice au moment où les Américains ont bombardé le port, parce que les Américains faisaient table rase, ils bombardaient les ponts, les ports, de façon à casser le moral de l'armée allemande. Et une bombe est tombée très très près de l'immeuble dans lequel j'étais, qui était l'immeuble de ma grand-mère, et je suis tombé par terre. C'était un tremblement de terre. Je me souviens que le sol a manqué sous mes pieds. Et c'était une bombe, je me suis renseigné, de 1000 kilos, une bombe d'une tonne. Et les Américains ont balancé des bombes de 2 tonnes sur Bagdad. Alors je peux imaginer ce qui reste dans les jambes des enfants qui ont été près de ces endroits.